Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous allons consacrer à la Saint-Jean d'été. Pour les textes, nous avons utilisé les ouvrages suivants. Paul Lavergne, L'enfant sous les charmes. Maurice Robert, Coutumes et croyances de la Saint-Jean, un article d'un bulletin de la Société ethnographique du Limousin. Roger Drouot, monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Albert Gourceau, la société rurale traditionnelle en Limousin et Basse-Marche. Et Monsieur Rougier, un article sur les rites de la Saint-Jean.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Nous avions la semaine dernière laissé le mois de juin au 21, au jour de l'été. Nous sommes en été et nous approchons d'une des plus grandes fêtes du calendrier, celle du 24 juin, celle de la Saint-Jean d'été. Les hommes avaient remarqué, nous dit Monsieur Rougier, dans un article sur les rites de la Saint-Jean, reprenant une émission de la Société ethnographique à Radio Limoges, les hommes avaient remarqué donc le retour régulier annuel de la végétation au moment où les jours devenus plus longs, les nuits plus courtes, la terre réchauffée par le soleil et fécondée par ses rayons, se couvrait de verdure, de fleurs annonçant les fruits et devenait génératrice d'abondance. D'où ces commémorations spontanées du solstice d'été, aussi vieille que l'homme. Telle est coïncidence fameuse qui nous révèle la dénomination historique des feux de Saint-Jean et des rites solsticiaux d'été dont l'origine remonte bien au-delà du IVe siècle, pendant lequel l'Église commença avec l'appui impérial les substitutions de noms chrétiens aux dénominations païennes. L'Église interdit d'abord aux chrétiens de prendre part à ces feux du solstice d'été. C'était alors une espèce de péché d'idolâtrie. Mais lorsqu'elle devint victorieuse, l'Église, on le sait, s'appropria en les sanctifiant les anciennes coutumes païennes. Adoptant les rites, elle les couvrit d'un nom nouveau. La date anniversaire de la naissance de Saint Jean-Baptiste ayant coïncidé avec le solstice d'été, il suffisait, en conservant le feu de joie du solstice, à sa date commandée par la nature, de la placer sous le patronage du saint précurseur. Et ainsi, les feux de joie du solstice d'été devinrent les feux de la Saint-Jean.
Voici la Saint-Jean, la grande journée, où tous les hommes vont à l'assemblée. Il y en a longtemps, si la lune est levée. J'en suis assuré, mais y en a, allons voir si la lune est levée.
Dans son roman « L'enfant sous les charmes », Paul Lavergne nous raconte la découverte du feu de Saint-Jean dans la région de Mézières-sur-Issoire par une enfant, Doudy, et sa grand-mère, Millette.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dès qu'elles ont contourné la grange Mativa, grand-maman et Doudy entendent le pétillement du feu. Une grosse fumée frisée monte par-dessus les toits. Tout à coup, elles sont en face de lui. Il est rouge, il craque, il lance des étincelles. La chaleur qu'il répand, si l'on avance trop près, oblige à plisser les paupières. Doudy se rencoigne dans le vaste jupon de grand-mère. Mais elle ne tarde pas à en sortir. L'allégresse des flammes, les cris des enfants, le jaillissement continu des étincelles font soudre la joie dans son petit cœur. Elle bat des mains, elle court, et dans sa gorge, sans qu'elle s'en aperçoive, naissent des cris pour célébrer le feu. « Ne t'approche pas, Doudy !» Mais la vieille Miette, elle aussi, est transportée. Elle parle, elle rit, elle est contente de voir la jeunesse danser la ronde autour du brasier. Dans mon temps, je l'ai dansé aussi et j'ai sauté le feu de tout mon élan. Viens, Doudy, viens, disent des voix fraîches. Des mains entraînent l'enfant, elle est dans la ronde, elle tourne, elle chante. On lui a mis une ceinture d'herbe comme il est de tradition pour danser autour du feu. Les voix se mêlent et montent dans la nuit. On ne sait à quoi attribuer la joie que l'on éprouve. C'est comme une grande chaîne qui relie les vivants aux morts et qui se perd dans la nuit des temps. Doudy est une petite maille, comme grand-mère autrefois le fut, comme le furent aussi tous les ancêtres inconnus. Ce n'est pas cela que l'on pense lorsque les cris font trembler la nuit. On ne pense à rien de précis, et cependant les cris veulent dire tout cela. On dirait que les flamèches atteignent les étoiles et que les cris de joie montent jusqu'au soleil, perdu très haut dans l'espace, à l'opposé de la terre. On dirait que le soleil s'arrête, tremblant de bonheur et murmurant dans la clarté qui l'entoure. C'est la nuit de la Saint-Jean, là-bas sur la terre, les hommes fêtent. Maintenant j'ai parcouru la moitié du chemin et l'année va redescendre. La ronde des jeunesses s'arrête, les flammes ont baissé, le grand poteau avec son bouquet de fleurs s'est écroulé, seules les braises luisent dans la nuit. « Je saute le feu !» dit une jeune fille. « Je saute le feu !» dit un garçon. « 10, 20 garçons, 10, 20 jeunes filles sautent le feu. On voit s'élancer leurs silhouettes, des mains applaudissent et des grands rires montent des poitrines. Ah, ils se marieront dans l'année !» dit quelqu'un. « Ah, comme c'est beau, mémé !» conclut Doudy, imaginant déjà tous ces cortèges de noces qui défilent au son de la musique. On ouvre les portes de la grange Mativa. Il faut que le bétail voie le feu comme les hommes. Miette choisit une grosse pierre et la dépose dans les cendres avant que Madame Mativa se soit avancée avec sa fiole d'eau bénite. « Pour que nous ayons de belles raves » dit-elle, à la fois comme un ordre et comme une prière. La nuit tombe lentement et bientôt il ne reste que des tisons fumants à la place du brasier. « Nous emporterons un tison, » dit Miette. « Le bois du feu de Saint-Jean préserve de la foudre. » Grand-mère choisit son tison et c'est Doudy qui le porte. Elle l'agite de toute sa force pour raviver la braise et décrire dans la nuit des cercles de feu qui l'enchantent. « Si tu veux, » dit Miette, « puisque grand-père n'est pas rentré, nous irons l'attendre jusqu'au gros châtaignier et nous verrons briller les feux sur les collines. » Soudain, une longue étoile semble jaillir de la terre au loin, sur la ligne sombre des collines. Elle s'élance pour atteindre le ciel, donne tout son effort, puis retombe. « Qu'est-ce que c'est ?» demande la fillette de nouveau effrayée. « Un feu de Saint-Jean qui s'éteint, » dit Mémé. « Celui de Bussière-Boffy, sans doute. » Et avant de rentrer à la maison, la fillette et sa grand-mère verront encore les lueurs des feux de Saint-Jean de Roche-Lidou, de Lalande, de Montrolles-Sénart et de Mazerolles. Que t'apportera-t-il, mignonne parfumée ? Il doit m'apporter une ceinture dorée, mignonne allons-voir si la lune est levée. Il doit m'apporter une ceinture dorée, une alliance en or et sa foi jurée, mignonne allons-voir si la lune est levée.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
La Saint-Jean est une des plus grandes fêtes du calendrier et le feu de la Saint-Jean est le point d'orgue de l'ensemble des cérémonies. Le feu de la Saint-Jean, nous dit Albert Gourceau, est certainement une des fêtes les plus populaires en Haute-Vienne, celle à laquelle, comme pour la frairie, participe avec la même allégresse la population des deux sexes et de tous âges. On faisait des feux partout. Le 23 juin 1904, écrit Roger Drouot, placé sur le Peumeunier près de Saint-Sulpice-les-Feuilles, nous avons pu compter plus de 60 foyers. Mais il faut d'abord, la veille, préparer le bûcher. Alors comment se préparait le bûcher ? C'était les jeunes gens ou les enfants qui recueillaient le bois mort ou les branches coupées quelques jours à l'avance dans les haies ou les châtaigneraies voisines. Mais très souvent, la préparation du bûcher était collective et coopérative. Chaque habitant, enfin chaque famille plutôt, donnait un ou plusieurs fagots. Et même, dans certains villages, chacun apportait son fagot en venant assister au feu. Les enfants recueillaient quelquefois de l'argent, surtout dans les dernières décennies, et ils en achetaient des pétards. On ajoutait des herbes, des fougères, tout ce qui pouvait dégager beaucoup de fumée. Tout cela s'entassait autour d'une perche centrale, fichée en terre ou maintenue fixée à un pieu métallique enfoncé dans le sol. Cette perche avait 4 à 6 mètres de haut. Elle était coupée dans le taillis le plus proche du village. À son sommet, resté généralement feuillu, était suspendu un bouquet fait de fleurs des champs, de fougères, de blé, d'un sarment de vigne. Quelquefois, la perche était couronnée d'un drapeau ou d'un rameau de noisetier et de 3 épis de seigle, et même parfois d'un crapaud. Il faut ensuite, le matin, cueillir les fameuses herbes de la Saint-Jean. Pour la Saint-Jean, on fait des bouquets pour éloigner l'orage, bouquets que l'on pique sur les portes des maisons, les portes des étables, que l'on pique sur les tas de fumier et bien sûr, quoi au sommet du bûcher. Pour être efficace, les herbes de la Saint-Jean devaient être cueillies au petit matin lorsque la rosée n'était pas encore évaporée. Voici quelles étaient en basse marche ces herbes de la Saint-Jean. La jalousie. La campanule, le noisetier, l'herbe de la Sainte Vierge, l'armoise, le lierre terrestre, le sureau, le millepertuis, la digitale, la fougère, l'herbe du tonnerre, l'aubépine, le châtaignier, le bleuet, la pervenche, le myosotis, la pâquerette et le bouton d'or. Mais ces herbes de la Saint-Jean ne sont pas choisies au hasard. Elles ont soit une valeur médicale, soit une valeur décorative, soit une valeur symbolique ou magique. L'ail que l'on trouve parfois permet de combattre la grêle, de faire fuir les serpents. C'est aussi le cas du groseillier, qui permet de lutter contre les parasites de l'intestin, et cela particulièrement à Nantia. L'armoise, comme la centaurée bleuet, comme la fougère, comme le millepertuis, permet de faire fuir l'orage et était surtout utilisée à Nantia et à Mézières-sur-Issoire. L'aubépine, l'aulne, la digitale, le noyer, le serpolet étaient utilisés pour la protection du fumier contre les sorciers, contre le mauvais sort, ou pour protéger les étables contre les sorciers. La rose et la campanule sont des porte-bonheurs. Le cerisier noir est utilisé contre la stérilisation du bétail. Le bouillon blanc, qui en plus de son usage médical, servait à éloigner le loup, en particulier dans le canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, à cause de son appellation locale de Beaubouillou, qui rappelle, nous dit-on, le hurlement de cet animal. L'iris des prés permettait d'éloigner le mauvais œil. Le noisetier augmente, dit-on, le rendement des récoltes. Enfin, le lierre terrestre ou le sureau sont utilisés comme plantes médicinales.
Voici la Saint-Jean d'été, au grand maréchal d'année.
Voici la Saint-Jean d'été,
encore salut à cheminée.
Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre. Voici la Saint-Jean d'été.
Voici la Saint-Jean et la Saint-Pierre. Voici la Saint-Jean d'été.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Vient enfin le moment d'allumer le feu. Le feu était mis par le plus âgé du village, par une personne prénommée Jean, par le maire, ou une notabilité quelquefois par le prêtre qui jadis bénissait généralement le bûcher. Parfois le privilège d'allumer le feu s'appuie sur de très vieilles coutumes, et c'est ainsi qu'à Bellac un conflit s'est élevé au XVIIe siècle entre d'une part les officiers de la sénéchaussée et d'autre part les consuls au sujet du droit d'allumer le feu. À Blon et à Mézières-sur-Issoire, le feu, après avoir été béni par le curé, était allumé par le sacristain. Le nom donné au feu de Saint-Jean, c'est l'oufio ou l'oufé des joyaux ou l'oufio de Saint-Jean ou l'oufio d'août. Et dès que les flammes s'élevaient, l'assistance, jeunes adolescents et même adultes des deux sexes, commençait une ronde en chantant. Alors, y avait-il des chants particuliers à la région ? Un seul, nous dit Maurice Robert, m'a été communiqué. Il se dansait sur une musique de guimbarde. Jean danse mieux que Pierre, Pierre danse mieux que Jean. Ils dansent bien tous les deux la guimbarde de chez nous. On chantait aussi des chants désormais traditionnels comme « Auprès de ma blonde », où Jeanneton prend sa faucille, « De bon matin, Pierre se lève », etc. Et plus généralement, selon l'inspiration du moment, tous ceux dont le rythme assez vite convenait à une ronde.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le nombre des tours accomplis par le groupe des danseurs n'est pas limité. Généralement, il dépend de l'entrain, de l'animation et de la persistance des grandes flammes. Parfois, il fallait en faire 3 fois le tour, un nombre que l'on retrouve dans plusieurs manifestations rituelles. On va le voir, la fête se poursuivait pendant une grande partie de la nuit. Et souvent, les animaux eux-mêmes n'étaient pas oubliés, c'était le cas dans les hameaux des Monts de Blond. Pour leur permettre de jouir du spectacle, on ouvrait les portes des bergeries et des étables. Pendant que montaient les flammes, des personnes y projetaient des pierres, afin d'obtenir des raves en abondance, autant de charretées de raves que de pierres. Des pièces de monnaie, pour devenir riche, du sel pour se préserver des orages, un bouquet d'herbes de la Saint-Jean pour éloigner l'orage, des crapauds pour éloigner le mauvais sort. Ajoutons encore que les vieux tournaient leur dos à la flamme pour se préserver des rhumatismes. On y présentait aussi les pieds pour que soit évitée, durant les durs travaux, la transpiration. On passait dans la fumée en faisant la ronde, ou à un quelconque moment, soit pour grandir, soit pour être beau, soit encore pour éloigner les maladies, pour tuer les microbes, soit enfin pour se préserver des rhumatismes. Aussi, ne ménageait-on pas les herbes vertes, les fougères, les branches, qui dégageaient une abondante fumée purificatrice.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dès que les flammes cessaient de s'élever, que le brasier n'était plus alimenté, on abattait généralement la perche qui était débitée et distribuée aux jeunes qui désiraient se marier dans l'année. Ils se promenaient alors dans les rues du bourg en brandissant le bout de perche en criant « Vive la Saint-Jean !» Chacun prenait une fleur du bouquet si celui-ci n'était pas consumé. Et on sautait par-dessus le brasier, les jeunes exclusivement, afin de se marier dans l'année, une jeune fille donnant la main à 2 cavaliers. Voici comment Albert Gourceau nous décrit les scènes de danse qui se poursuivent pendant une grande partie de la nuit. Les plus audacieux et les plus agiles sautaient le brasier afin d'avoir des raves, de se guérir des rhumatismes. C'était le cas particulièrement à Drou, de se protéger contre les maladies, mais le plus souvent c'était pour se marier dans l'année. Quand arrivait le tour des jeunes filles, chacune donnait la main à 2 cavaliers et d'un bond, ils exécutaient ensemble le saut toujours un peu risqué. Mais si par bonheur l'une d'elles arrivait à capter une étincelle dans sa jupe en passant au-dessus du feu, elle était assurée de se marier promptement. Mais il y avait toujours les récalcitrantes qui, par peur ou par simple timidité, n'osaient pas sauter. Malgré leurs protestations, 2 costauds les prenaient alors sous les bras et les balançaient durant quelques instants au-dessus du tas fumant qui les effrayait. Peu à peu, il ne reste plus que les tisons et les cendres. Lorsque le feu était suffisamment bas pour que l'on puisse se saisir de quelques tisons, commençait cette curieuse scène que nous rapporte Albert Gourceau. Quelques personnes, une par famille au moins, se livrent, avant d'emporter leurs tisons, à une pratique des plus curieuses. Frappant le dit tison contre une pierre, elle prononce l'invocation suivante. Autant de charretées de raves que d'étincelles, grosses comme des petites souches, bonnes comme des petits pains. On recueillait les tisons ou les cendres qui avaient de nombreuses vertus. Alors selon les villages, les tisons préservaient de la foudre et faisaient pondre les poules. Aussi étaient-ils conservés précieusement dans la cuisine, sur la cheminée, sous le lit ou dans le poulailler et les étables. C'était particulièrement le cas à Blond, à Mézières-sur-Issoire et à Nantia. Les cendres et les tisons portaient bonheur et avaient un caractère protecteur. Pour obtenir le bonheur, on faisait tournoyer les tisons encore rougeoyants. Les tisons bénis éloignaient l'orage. On les mettait un peu au feu dès qu'ils menaçaient. Les cendres étaient dispersées dans les étables des ovins et des bovins afin de les prémunir contre les boiteries. Elles étaient également répandues dans les blés pour éviter le pourrissement et les maladies. On dispersait les cendres dans les prés pour faire pousser l'herbe. On en conservait dans des poches, suspendues dans la cuisine, dans le grenier, et même on en répandait sur le toit pour éloigner la foudre. Souvent, on revenait le lendemain matin, avec les animaux, les ovins, surtout sur l'emplacement du feu, et on les faisait piétiner dans les cendres. La première bergère à faire effectuer le passage donnait à son troupeau les meilleures chances de protection. À Droux, par exemple, cette pratique permettait d'éviter les boiteries des animaux, le piétin des moutons ou les clous pris par les bœufs et les vaches.
La Saint-Jean déteste danse au seuil de ma porte. La Saint-Jean d'été passé, Catherine dansait. Elle avait mis du miel dans ses cheveux et dans mon cœur un amour merveilleux. La Saint-Jean d'été se chante au seuil de ma porte. La Saint-Jean d'été passée, Catherine chantait. Elle avait mis des oiseaux plein ses yeux et sur mes lèvres un baiser merveilleux.
Le 24 juin, jour de la Saint-Jean, à Vieilfonds, dans la commune de Berneuil, se tenait dans le passé un énorme rassemblement par lequel je voudrais poursuivre. Vieilfonds, ancienne fontaine, est un petit hameau de la commune de Berneuil qui possédait un prieuré avec sa chapelle dépendant de l'abbaye du Breuil. L'ensemble des bâtiments fut détruit pendant la Révolution. La chapelle était située près d'une source, aujourd'hui bouchée, qui donnait lieu à un important pèlerinage le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste. Ces pèlerinages se poursuivirent bien après la disparition de la chapelle. Voici le compte-rendu des événements du 24 juin 1910, extrait du bulletin du Dolmen Club de Bellac.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le 10 jour, 24 juin, de toutes les communes environnantes, on se rend, à l'instar des vieux Gaulois, au fond des bois, pour découvrir la clairière de Vieilfonds et y faire les dévotions au bon saint protecteur de la contrée. Les bustes de Saint-Jean et de Saint-Blaise, provenant de l'ancienne chapelle conservée dans des maisons de Vieilfonds, sont déposés sur un amas de pierres, dernière ruine d'une antique chapelle. La vertu principale de ce pèlerinage serait de guérir les enfants de la peur. Il y a des amusements pour la jeunesse, des marchands de vin, naturellement des vendeuses de cerises, on y danse, on y boit, et autrefois on allait se faire couper les cheveux par les barbiers ambulants. Les personnes pratiques y vont louer les domestiques pour la fauche des prés et pour la moisson. Il convient de signaler un complément obligatoire pour l'efficacité des dévotions, c'est de faire le tour d'un vieil arbre qui est un cerisier. Quand il tombe de vétusté et meurt, on le remplace par un jeune sujet.
Thank you.
petites et grandes histoires de la basse marche.
Ce texte nous rappelle que la Saint-Jean était aussi une date de louée, une date de foire aux domestiques. À Bonnefonds, ce 24 juin, c'était une petite louée, puisqu'on ne se louait que pour la période des gros travaux, les fauches et la moisson. Et donc seulement pour les 4 mois de l'été, de la Saint-Jean à la Toussaint. Il est à noter que pendant la période de l'été, la journée de travail commençait à l'aube et se terminait à la nuit. Les domestiques avaient droit au repos du dimanche, mais seulement après le repas de midi, mais avant de quitter la ferme, ils devaient assurer le soin aux animaux. Ajoutons que leur absence ne devait gêner en rien la bonne marche de l'exploitation. Entendons par là qu'en été, s'il y avait du blé ou du foin à rentrer et que le temps menace, il fallait, avant de sortir, aider à mettre la récolte à l'abri. Étant donné la très longue durée de la journée de travail, la coutume voulait que le salaire des 4 mois d'été soit égal au salaire des 8 autres mois. Pour terminer, voici cette curieuse fête de la Saint-Jean-Baptiste à Darnac. Le patron de l'église de Darnac a le privilège extraordinaire de guérir toutes sortes de maladies. Mais si l'on a mal au bras, à la jambe, à la tête, il faut toucher le bras, la jambe ou la tête du saint avec un peloton de laine qu'on lui lance d'une certaine distance. Si l'on manque son coup, on en lance un second, un troisième et plusieurs autres s'il est nécessaire, jusqu'à ce que l'on ait touché le membre de la statue du saint qui correspond à celui dont on veut obtenir la guérison. Le même peloton ne peut servir qu'une seule fois. Et le sacristain ne manque pas de les ramasser tout au fur et à mesure qu'on les jette. Et il arrive souvent qu'on fasse cet exercice pendant que le curé dit la messe. Il est sujet de recevoir de temps en temps quelques coups de peloton par la tête ou par les reins, mais il n'y fait pas attention. Il se retrouve suffisamment dédommagé par une abondante provision de laine. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée à la Saint-Jean d'été. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Paul Lavergne, de Roger Drouot, de Maurice Robert, d'Albert Gourceau et des articles du bulletin du Dolmen Club de Bellac. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, Malicorne, Sourdeline, au chanteur Maurice Fanon, aux musiciens Massimo Craveri et Claude Verger, dont nous écoutons en ce moment un de ses arrangements musicaux. Voici la Saint-Jean. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc. Et très bonne semaine à vous tous.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.